voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Ce soir, dans le grand rendez-vous, nous parlons de la capacité des FAMA, Forces armées maliennes, à répondre aux défis sécuritaires qui l'interpellent. Retrouvons d'abord notre invité, Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Mathilde Lambert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ONG française Action contre la faim en Centrafrique. Votre ONG alerte sur les risques élevés d'insécurité alimentaire en République centrafricaine. Quelle est la situation humanitaire sur place?
Alors la situation sur place, c'est que les perspectives sont extrêmement inquiétantes. On voit des trompements sur les axes routiers et dans certaines villes, telles que par exemple Boire, où Bangassou, Bambari ont pu avoir lieu. On a eu également des affrontements qui ont eu lieu en périphérie de Bangui. On voit que le passage des camions en provenance du Cameroun sur la MSR1, qui est un vrai axe stratégique d'approvisionnement pour la Centrafrique, est coupé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'approvisionnement en biens essentiels de première nécessité pour la population. Donc on a une inquiétude assez importante du fait que le prix des biens va augmenter, que cette crise arrive après la crise du Covid, qui a eu également un impact sur la situation alimentaire et nutritionnelle des populations centrafricaines.
Les organisations humanitaires ont-elles les moyens de répondre à ces besoins et surtout d'accéder aux populations nécessiteuses?
Alors c'est ce que nous sommes en train d'évaluer à l'heure actuelle. On est en train de voir si on peut faire des interventions auprès des populations qui sont déplacées à l'intérieur des villes. Donc, je pense notamment à la ville de Bangui, je pense également à la ville de Boire, puisque nous sommes présents dans cette ville et qu'on compte 6000 personnes déplacées à l'intérieur de la ville de Boire. Donc on est en train de se préparer pour intervenir très rapidement, notamment sur des activités d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour construire des latrines d'urgence, pour assurer un approvisionnement en eau en partenariat avec d'autres organisations dont MSF. Après, de là à se rendre sur les axes routiers, je vous avoue que la situation est vraiment compliquée.
Quelles sont les parties de la Centrafrique où les besoins sont plus urgents, ou est-ce que cela concerne l'ensemble du pays?
Alors ça concerne vraiment l'ensemble du pays parce qu'on a une situation où on a près de 2,8 millions de personnes qui sont confrontées à de multiples besoins essentiels, donc que ce soit soutien en nutrition, besoin en sécurité alimentaire, en santé ou en eau, assainissement et hygiène. Donc c'est une situation qui se retrouve sur l'ensemble du pays. Après, on voit que là, les affrontements avaient commencé et les difficultés d'accès ont commencé dans le nord et l'ouest du pays, mais on voit que ça se généralise aussi à l'est. Et les zones qu'on identifiait comme étant peut-être les plus vulnérables sont peut-être parfois de manière surprenante celles qui sont pour le moment les plus calmes.
Est-ce que le travail des humanitaires est entravé par des groupes armés qui contrôlent une bonne partie de la Centrafrique?
C'est les déplacements de ces groupes armés et les affrontements éventuels qui rendent difficile pour nous une intervention, parce que nous ne sommes pas à l'heure actuelle assurés de pouvoir intervenir en toute sécurité. Donc d'où l'importance pour nous et par le biais du comité de coordination des ONG internationales, nous avons publié un communiqué en demandant à toutes les parties prenantes de respecter le droit international humanitaire, de respecter le libre accès et de nous laisser le libre accès aux populations sans lesquelles nous ne pourrons pas intervenir.
Est-ce que les biens destinés aux populations sont en sécurité? Souvent, ce qu'on observe dans des cas de conflits comme cela, les vivres même destinés aux populations sont pillés et détournés.
Alors on peut s'attendre effectivement à des actes de prédation de la part de certains groupes auprès de la population. Il n'y en a pas eu qu'on nous ait fait remonter, en tout cas pour le moment, mais on peut s'y attendre. Après, on a vu effectivement des actes de pillage de certaines ONG ou de certains marchés ou de certains marchands. Donc c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif et qu'on condamne très fermement.
L'ONU parle de 30 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, plus de 60 000 autres personnes déplacées à l'intérieur du pays. Comment vivent ces personnes aujourd'hui?
Les conditions sont extrêmement, extrêmement compliquées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a des rumeurs d'affrontements ou même ne serait-ce que d'arrivées de groupes armés dans la zone. Les populations quittent leur maison, quittent leur quartier pour aller soit se réfugier en brousse dans les champs, soit se réfugier dans des familles d'accueil.
Ces populations fuient en laissant tout derrière elles. N'importe
Exactement.
Presque rien.
Elles ont absolument, tout à fait. Elles n'ont absolument pas le temps de préparer un paquetage, de prendre que ce soit de la nourriture, les articles ménagers essentiels, les cheptels, etc. Tout est abandonné sur place. Du coup, ça fait qu'on a des populations qui étaient déjà dans des situations extrêmement précaires, qui se retrouvent à pas pouvoir faire face à la situation parce qu'elles ont abandonné justement tous leurs moyens d'existence. Donc elles adoptent des mécanismes d'adaptation extrêmement néfastes qui va être par exemple de supprimer un repas dans la journée ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que Action contre la faim, justement, par ses activités du RRM, Rapid Response Mechanism, enregistre du coup dans les sites de déplacés, voit le nombre de personnes qui est déplacée et essaye de voir pour faire des dotations en articles ménagers essentiels, des dotations en kits d'hygiène et de dignité pour les femmes notamment.
Mathilde Lambert, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Directrice Action contre la faim en Centrafrique.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de l'armée malienne qui a célébré ses 60 ans le 20 janvier dernier, c'était avant-hier. Est-elle capable de répondre aux défis sécuritaires? C'est le thème de notre débat ce soir avec Tiémane Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense. Il a été également ministre des Affaires étrangères. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Vous m'entendez, monsieur Koulibaly?
Oui, je vous entends. Bonsoir, madame.
Bonsoir à vous. Vous êtes en direct d'Abidjan. Docteur Ali Tunkara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Bamako et vous êtes directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel et également auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits. Ibrahim Koulibaly, vous êtes journaliste, analyste et directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Monsieur Koulibaly, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, monsieur Adama Ben Diarra. Allô, monsieur Ben Diarra, porte-parole de Yerewolo, qui signifie le digne fils, c'est en Bambara. Adama Ben Diarra, est-ce que vous êtes là? Manifestement, pas encore. Je vais commencer donc le débat avec vous, monsieur Tiémane Koulibaly. Les 60 ans de la création de l'armée malienne ont donc été célébrés mercredi. En présence du président par intérim, revue des troupes, honneur militaire, dépôt de gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu au camp militaire Soundiata Keïta de Kati. Aujourd'hui même, 3 soldats maliens ont perdu la vie à la frontière avec le Burkina Faso. Estimez-vous qu'au regard de la situation sécuritaire actuelle, il n'y avait rien à célébrer? Ou qu'on aurait peut-être pu faire plus modeste?
Écoutez, madame, il faut toujours célébrer ceux qui se battent, y compris dans un contexte comme le nôtre. Cette célébration est un rappel, c'est aussi peut-être, de mon point de vue, une manière d'encourager ceux qui sont au front, qui sont engagés dans une guerre qui n'est pas celle à laquelle les armées classiques ont été préparées, sont destinées, une guerre contre le terrorisme, qui agit selon des méthodes, comme vous le dites, hein, qui ne sont pas des méthodes conventionnelles. Je voudrais déjà m'incliner sur la mémoire de ceux qui sont tombés aujourd'hui, suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé.
Oui, entre Koro et Mondoro, dans le centre du pays.
Bien sûr. Donc, vous voyez bien, ce sont des méthodes terroristes et qui créent des difficultés aux armées conventionnelles, qui sont obligées de se déplacer sur un territoire deux fois plus grand que la France. Des choses comme ça arrivent depuis plusieurs années.
Merci.
C'est dur, mais l'armée continue de se battre et c'est pour ça qu'il faut la célébrer.
quelles que soient les conditions, les circonstances et les situations de sécurité. Ali Tunkara, vous êtes d'accord ? Certains estiment que c'était une célébration inutile et que l'urgence et le contexte sécuritaire ne donnent aucune légitimité à de telles célébrations.
Je pense que la célébration symbolique, elle est quand même intéressante. Je crois qu'au-delà des festivités, c'était des moments particuliers pour les éléments de faute de défense et de sécurité. Même de questionner l'appareil sécuritaire et de s'interroger sur la demande et l'offre de sécurité des années 60 à aujourd'hui. Mais des festivités, naturellement, pourraient être perçues différemment par les Maliens dans leur grande majorité. Des années 60 à aujourd'hui, certes, l'armée malienne a été présente sur pas mal de théâtres d'opération, mais malheureusement, cette armée malienne, elle est quand même loin de combler les attentes qu'ont aujourd'hui un nombre important de Maliens, tant sur le plan sécuritaire même que sur le plan de gouvernance. C'est quand même une armée qui a clairement quitté son champ initial, qui est la défense et la protection justement des personnes ainsi que celles de la
vie. Vous s'intéresser davantage à la gestion de la chose publique, à la politique.
Clairement, une armée un peu sans équivoque quand même, ne serait-ce que de 60 à aujourd'hui, 4 coups d'État, une armée qui est toujours au pouvoir avec une bonne partie du territoire qui reste toujours sous le contrôle du groupe violent. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas un bilan à vendre aux Maliens.
Merci, M. Tunkara. Ibrahim Koulibaly, rien à célébrer malgré les 60 ans. 60 ans, c'est quand même énorme. C'est beaucoup pour certains, on l'entend des Maliens, mais d'autres également affirment que ce n'était pas nécessaire. Quel regard vous portez sur cet événement, ce 20 janvier ? Qu'est-ce qu'il signifiait pour vous ?
Pour moi, c'est une question de fierté et de souveraineté nationale. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes sur le plan financier et sur le plan d'entente, de l'attente sécuritaire même des populations. Mais une armée, c'est une question de fierté nationale, c'est une question de souveraineté. Et en plus de ça, moralement et psychologiquement, il faut montrer à l'ennemi qu'on est atteint et de telle sorte qu'à ne plus fêter. Donc moi, je pense que fêter, c'est un moyen de remobiliser et de réarmer les troupes, de leur donner leur fierté.
On est atteint, mais on est debout.
Oui. Donc, voilà quoi. Donc,
mais vous avez entendu le docteur Tunkara dire tout à l'heure que l'armée, après 60 ans aujourd'hui, 4 coups d'État, semble être passée à côté de sa mission.
Oui, mais pour autant, faudrait-il qu'on se détourne carrément de cette armée ? Nous n'en avons pas d'autre, c'est la seule armée que nous avons. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour réarmer cette troupe-là. Moralement et mentalement. Donc moi, je pense que la fête du 20 janvier participe à cela. Mais c'est vrai que les attentes sont là, elles sont nombreuses, mais faisons tout, en tout cas, pour remonter le moral des troupes.
Merci. Et c'est ce jour-là que vous avez choisi, vous, Adama Ben Diarra, à travers votre association Yerolo, de manifester pour demander le départ des forces étrangères. On me fait signe que M. Diarra n'est pas en ligne. Alors, je vais attendre qu'on essaye de le contacter pour lui poser cette question. M. Tiemane Koulibaly, vous avez été ministre de la Défense, limogé en 2016 après une attaque dans le centre du Mali. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que par rapport à l'époque où vous étiez ministre de la Défense, il y a eu une évolution positive au sein des FAMA par rapport à la lutte contre le terrorisme?
Bien sûr, il y a une évolution positive, madame. Vous savez, l'armée malienne, alors, c'était comme à l'époque, l'image que je vous donnais, un véhicule qui présente des pannes, mais qu'on ne peut pas arrêter pour le réparer. Vous voyez, il faut que les autorités maliennes et tout le peuple malien travaillent à aider cette armée, à la reconstruire, à lui donner des moyens, à revisiter sa doctrine, et, tant sur le plan du recrutement que sur le plan de la formation et de l'engagement dans les actions civilo-militaires, pendant qu'elle se bat contre le terrorisme. C'est ça le challenge.
Mais quand vous dites qu'il y a évolution, pourriez-vous être plus concret?
Il y a évolution en termes de résultats opérationnels. Ce qui se passait, les conditions dans lesquelles l'armée se battait en 2006, parce qu'il faut dire que cette guerre a commencé véritablement depuis les attaques de Ménaka du mois de mai 2006, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Nous avons des moyens aériens aujourd'hui, des moyens d'attaque, des moyens de transport.
Mais sauf que les attaques se multiplient et les populations continuent de subir, les populations civiles continuent de subir les conséquences de ces attaques. Elles sont victimes, de même que les FAMA. Finalement, ce que vous appelez ces résultats positifs ressemblent à ce taux de croissance dont on parle souvent et dont les populations ne ressentent pas l'effet dans leur quotidien.
Oui, madame, vous m'avez demandé s'il y avait une évolution positive. Je vous dis que oui, en termes de résultats opérationnels, en termes de conditions d'engagement, en termes de présence des troupes sur le territoire. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons un territoire qui est extrêmement vaste et nous nous battons avec les moyens qui sont ceux du Mali. Si des soldats sautent sur des mines, c'est bien qu'ils sont présents sur le champ d'opération. Donc, il y a des avancées, mais cette guerre-là sera longue et sera très coûteuse. Et ce n'est pas le Mali simplement qui est concerné, ce sont plusieurs pays autour de nous, et même, vous pouvez voir des situations similaires à travers le monde qui traînent en longueur et qui font beaucoup de dégâts humains, parce que déjà une armée conventionnelle qui recrute des troupes sur son territoire, qui se finance par les moyens de sa nation, et qui se retrouve face à un ennemi qui est lui-même sécrété par cette même nation. Ce sont des conditions psychologiques de combat qui sont extrêmement difficiles.
C'est-à-dire les terroristes sont maliens, ce sont des enfants du Mali.
Mais bien sûr, les armées étaient conçues pour combattre un ennemi extérieur. Extérieur socialement, extérieur culturellement, qui est au-delà d'une ligne qu'on considère comme notre ligne de frontière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous voyez que ce sont là des conditions psychologiques de combats qui sont très difficiles.
Donc vous diriez que l'armée malienne aujourd'hui, les FAMA ont les moyens de faire face à la situation sécuritaire actuelle ?
Oui, l'armée a les moyens, mais il faut accroître les moyens. Il faut accroître les moyens, il faut faire encore beaucoup d'efforts en termes même d'effectifs et donc de formation, parce que la pression qui est exercée sur les troupes est extrêmement importante. Les taux d'attrition sont très importants.
Merci, monsieur Tiemane Koulibaly. On va marquer une courte pause. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de ce débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
18h30 à Paris, 17h30 à Abidjan, où vous nous écoutez sur 91.1 FM. Nous débattons ce soir de la capacité des FAMA, les forces armées maliennes, à faire face aux défis sécuritaires qui l'interpellent, avec trois invités, dont l'un est justement à Abidjan, Tiemane Hubert Koulibaly, ancien ministre malien de la Défense. Il a également été ministre des Affaires étrangères. Ibrahim Koulibaly, journaliste et directeur de publication de La Nouvelle Tribune. Nous n'arrivons pas à joindre pour l'instant Adama Ben Diarra, porte-parole de Yéré Wolo, une association qui demande le départ de toutes les forces étrangères du Mali. Et nous tenons à signaler également que nous avons contacté l'armée malienne qui n'a pas souhaité participer à ce débat. Notre troisième invité est Dr Ali Tunkara, à qui nous allons donner la parole. Il est le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Vous êtes à Bamako. Docteur Ali Tunkara, l'ancien ministre Tiemane Koulibaly dit qu'il est satisfait de l'état dans lequel se trouve l'armée malienne aujourd'hui. Il dit néanmoins qu'il faut faire beaucoup plus en termes d'effectifs, en termes de formation. Est-ce que pour vous, ce sont les seules faiblesses des FAMA aujourd'hui, 60 ans après son indépendance, après sa création, je veux dire?
Oui, elles font partie incontestablement des faiblesses. C'est vrai que son Excellence M. Koulibaly fait quand même de rappeler toute la dimension complexe de cette lutte contre les groupes radicaux violents, mais dans le même temps, le caractère mouvant aussi quand même de ces différents facteurs. Mais je crois qu'il serait quand même bon, c'est vrai, des efforts ont été consentis afin que l'armée malienne puisse être capable de stopper toutes ces menaces terroristes. Mais en dépit de ces efforts, malheureusement, ce qui mine aujourd'hui au sein de la hiérarchie militaire, même d'ailleurs chez une bonne partie de la classe politique malienne, ce sont ces pratiques quand même collectives. Vous n'êtes pas sans savoir que des milliards en France, CFA ont été débloqués pour acheter d'équipements militaires. Pour
une affaire où le fils de l'ancien président Karim Keïta, son nom était d'ailleurs cité en tant que président de la commission défense à l'Assemblée nationale.
Clairement, beaucoup de personnalités politiques, mais aussi militaires, qui sont aussi citées dans des rapports très sérieux. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, des initiatives sont certes prises, ça et là, mais lesquelles initiatives sont sérieusement hypothéquées par ces pratiques collectives qui restent quand même impunies. Donc, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que l'armée malienne, elle est suffisamment bien outillée, le ministre a bien fait quand même le même si elle bénéficie de formations de part et d'autre, notamment...
des partenaires, l'Union européenne.
L'Union européenne, même de l'aménagement, il ne faut quand même pas aussi le gommer. Mais je pense qu'au-delà de ces efforts déployés à partir du local qui sont quand même hypothéqués par la corruption, il y a aussi un autre aspect qui me paraît important. Si vous regardez un peu cette offre de formation proposée par les partenaires, notamment l'Union européenne, l'aménagement, c'est une offre de formation qui souffre d'un problème de pédagogie. Chaque État membre de l'Union européenne, par exemple, a ses méthodes, ses approches. Donc, le haut commandement militaire du Mali, l'élite politique malienne ont du mal, justement, à avoir des visions communes dans la durée, à avoir des stratégies communes afin que les différents éléments de force de défense et de sécurité qui bénéficient de ces différentes formations puissent, justement,
recevoir... Et qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Tunkara, très clairement, vous voulez dire que ces formations sont inadaptées ou plutôt mal organisées? Quel est le point que vous voulez pointer du doigt?
Ce sont des formations qui ne collent pas forcément aux besoins réellement exprimés par les hommes des différents types d'opérations. Donc, je crois qu'il est quand même aussi de la responsabilité du commandement militaire de faire en sorte que les différentes formations puissent correspondre aux attentes qu'a l'armée malienne vis-à-vis de ces formations. Mais malheureusement, les partenaires aussi, à leur tour...
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple concret d'offre de formation que vous jugez inadaptée, qui a été proposée, par exemple, par l'Union européenne ou FAMA?
Vous prenez par exemple toutes les formations relatives à la cybercriminalité, au renseignement et d'autres types de formations. La France a ses approches, l'Angleterre a ses approches, l'Allemagne a ses approches. Donc finalement, au bout du tunnel, le sujet qui ont reçu ces différentes formations se retrouve dans une sorte, si vous voulez, de cafouillage méthodologique, dans une sorte même de désordre pédagogique. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on dise voilà le type de formation dont nos militaires ont besoin.
Qu'il y ait un travail clair sur l'identification des besoins et la coordination de cette formation.
Clairement, c'est ce
merci. Merci. Ibrahim Koulibaly, je ne sais pas si vous souhaitez abonder dans le sens de Dr Tunkara. Sinon, j'allais vous demander, on parle aussi de crise interne au sein des FAMA qui font qu'il n'y a pas une vision commune au sein des forces armées pour s'attaquer justement à ce défi sécuritaire.
Oui, ça c'est une réalité évidente parce que depuis un certain temps, notre armée est très mal gérée. Parce que d'abord, à commencer par le recrutement, tout le monde sait au Mali dans quelles conditions se font les recrutements. Ce n'est pas les plus méritants et les plus aptes qui sont recrutés. Ça c'est un. De deux, au niveau même de la...
C'est-à-dire qu'il y a du favoritisme au moment de la part de la hiérarchie militaire pour le recrutement?
Aujourd'hui, c'est pratiquement une reproduction dans l'armée. Mon père est militaire, moi aussi je suis militaire. Mon père est colonel, je deviens colonel. C'est une reproduction, ce n'est caché de personne. Pour qu'un enfant ait accès au prétendu militaire, il faut être colonel ou général. Donc franchement, il y a trop de népotisme, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas le moment de démoraliser les troupes, mais il y a trop de népotisme, ça c'est un de deux. Et au niveau même de la hiérarchie militaire, il y a trop de favoritisme parce que le politique a fait une très grande intrusion au sein de l'armée. Nous avons des assistants à des promotions politiques au sein de l'armée et les militaires ont envahi l'administration malienne. Donc, au lieu du travail proprement militaire, ils sont beaucoup plus tentés par l'administration où il y a beaucoup de choses à gagner. C'est la raison pour laquelle...
C'est-à-dire des budgets à gérer?
Oui, des budgets à gérer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de la corruption. La bourgeoisie militaire n'a jamais été aussi riche au Mali que maintenant. Donc les militaires ont pris goût à l'argent. Et de plus en plus, l'armée est devenue une armée intellectuelle. Donc les grades sont distribués en fonction du niveau intellectuel et non en fonction de la bravoure militaire et des aptitudes militaires. Donc c'est devenu une armée intellectuelle, c'est ce qui explique le plus grand nombre de colonels et de généraux. Donc c'est devenu un problème.
Nous qu'il faut payer avec qu'il faut payer.
Oui, qu'il faut payer. Donc nous n'avons plus cette armée de combat.
Et vous pensez que tous ces militaires ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir autant de colonels au sein de l'armée, autant de lieutenants.
Oui, les lieutenants, je suis d'accord. Les lieutenants, les sous-officiers subalternes, je suis d'accord. Mais vous voyez, le nombre de colonels, il n'y a pas de répercussions sur le terrain. Le nombre de généraux, il n'y a pas de répercussions sur le terrain. Donc,
merci.
Nous avons des sérieux problèmes. Nous avons une armée déstructurée. Donc, franchement, il y a un problème de gestion des hommes au sein de l'armée.
Merci.
Et l'armée n'a pas la seule fautive. La classe politique a sa part de responsabilité.
Merci beaucoup. On va permettre à Tiémane Koulibaly, qui fait partie justement de cette classe politique, parce qu'il a été deux fois, il a été ministre des Affaires étrangères aussi, de la Défense, ce sont les portefeuilles régaliens. Monsieur Koulibaly, qu'est-ce que vous répondez à cette analyse froide et sans concession de l'armée malienne ? Bourgeoisie militaire, armée intellectuelle politisée, d'officiers pas nécessaires. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous avez fait face lorsque vous étiez à la Défense ?
Madame, d'abord, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a eu des évolutions positives, mais je n'ai pas dit que j'étais satisfait. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Oui,
il y a encore beaucoup d'efforts
sur le plan
à
des
faire.
Effectifs et de la formation, disiez-vous.
Le plan des effectifs, le plan de la formation. Je vous ai parlé même de la doctrine qui fait vivre, qui devra faire vivre cette armée-là. Vous voyez, une armée, c'est un corps social. Hein. Ce sont des Maliens qui sont recrutés, cela a été dit, et qui sont formés pour devenir des militaires, puis des combattants.
Mais recruté dans des conditions contestées, on l'a entendu.
J'en arrive, madame. Ce que le dernier intervenant a dit sur le recrutement est une vérité. C'est une vérité. C'est-à-dire que les circuits de recrutement doivent être moralisés. Moi, un des derniers actes que j'avais posé avant de quitter le ministère de la Défense était le lancement d'un projet de délocalisation des unités de recrutement. Mon intention était d'aller dans les villages, éviter que le centre nerveux du recrutement reste Bamako, mettre des antennes régionales et aller au plus profond du Mali pour aller recruter les militaires au sein de la population malienne dans sa diversité pour régler un certain nombre de problèmes. Et deuxièmement, un des tout derniers actes aussi avait été l'organisation du travail qui consistait à rédiger les textes pour l'avancement. N'est-ce pas ? Il a été question de grade tout à l'heure par un de nos interlocuteurs. Il faut codifier l'avancement. Cela a été... ceux qui sont venus après moi ont continué ce travail-là.
Et vous aviez du mal en tant que ministre à faire passer ce message, ces réformes au sein de l'armée ?
Non, j'avais réuni simplement le Conseil supérieur de la fonction militaire afin de travailler avec les chefs militaires pour codifier l'avancement, rédiger les textes pour l'avancement, de manière à ce que celui qui doit quitter lieutenant pour passer capitaine, les conditions soient connues, écrites et figées. Évidemment, tout évolue dans le temps, mais il faut codifier cela. Donc, nous avons fait ce travail-là. Nous avons fait un nouveau statut général de la fonction militaire qui a été adopté à l'Assemblée nationale après moi. Mais c'est moi qui l'avais initié et terminé la rédaction avec les avantages, la revalorisation des salaires.
Merci.
Un ensemble de mesures susceptibles de renforcer le soutien à l'homme, aux militaires, je veux dire, de garantir ses droits et de donner de l'espoir à sa famille en cas d'invalidité partielle ou totale ou en cas de disparition, etc. Tout ça pour remonter le moral des troupes. Mais merci. Il est clair, madame, il est clair, je suis d'accord, que le recrutement doit être moralisé. Parce que pour qu'un militaire devienne un combattant, il lui faut un statut, une posture psychologique et une force et psychologique qui ne peuvent pas fonctionner. Oui, physique, bien sûr, qui ne peuvent pas fonctionner dans un contexte, c'est vrai, de procédures corrompues.
Et cette exigence est encore plus vraie aujourd'hui et plus nécessaire aujourd'hui au regard de la situation. Je vais me tourner à nouveau vers vous, docteur Tunkara. S'il y avait des urgences à revoir aujourd'hui, quels sont les aspects pour lesquels il faudrait absolument travailler et très vite pour rendre les FAMA plus performantes?
Je crois qu'il y a trop d'urgences, mais vraiment pour prioriser les urgences, il faut vraiment rapidement s'attaquer à ces questions d'éthique et de morale chez un certain nombre d'éléments de force défense des éthiques. Si vous regardez un peu en dépit de ces pratiques collectives, il y a quand même un sérieux problème d'éthique chez un certain nombre d'éléments de force défense des éthiques. Sur les différents chats. Des communautés qui sont en proie aux attaques terroristes, ces mêmes communautés sont parfois aussi raquettées par ces mêmes forces défense de sécurité qui sont censées les sécuriser. Donc ça, ce sont des urgences à rapidement corriger dans le différent qu'il y a de formation militaire. De la même manière également, si vous regardez un peu aujourd'hui, cette question du rapport entre l'élite militaire et les hommes sur les différents types d'opérations, il est quand même un rapport tout à fait, si vous voulez, distant. Le train de vie des officiers militaires qui sont aujourd'hui aux commandes à Bamako, regardez également les conditions difficiles dans lesquelles vivent ces militaires qui sont dans les jeunes.
C'est-à-dire les soldats qui sont au front.
Clairement, quand vous échangez avec ce soldat lors des différentes missions, vous allez vous rendre compte que le moral il est vraiment aux abois. Donc je crois qu'il est extrêmement urgent aujourd'hui, avant de continuer à acquiser la force Barkhane française, avant de continuer à acquiser l'aménagement, de se questionner sur ces dynamiques locales qui font malheureusement de quelques éléments qui ont justement la foi de combattre les groupes radicaux violents. Lorsque jette un regard sur l'élite militaire à Bamako, lorsque regarde un peu cette loi de programmation militaire, tout cet argent détourné pour des fins personnelles, pour des fins électoralistes, naturellement au bout du tunnel, le découragement gagne les hommes du terrain.
Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une dernière pause très courte et je vous retrouve pour la suite et fin de ce grand rendez-vous.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous sommes en compagnie de nos trois invités. Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études de sécurité stratégique au Sahel. Il est à Bamako, à Abidjan. Tiemane Hubert Koulibaly, ancien ministre malien de la Défense, mais aussi des Affaires étrangères. Et Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Ibrahim Koulibaly, avant la pause, le docteur Tunkara disait qu'avant d'accuser la MINUSMA, la force onusienne, et Barkhane, celle française de tous les noms, il faut regarder aussi l'état des FAMA aujourd'hui. Or, certains demandent le départ des forces étrangères. C'est le cas de l'association Yerewolo qui a organisé des manifestations à Bamako. La dernière a été dispersée mercredi. Si aujourd'hui ces forces-là devaient quitter le territoire malien, est-ce que les FAMA telles qu'elles sont aujourd'hui, telles que vous la connaissez et la décrivez, seraient en mesure de sécuriser et les Maliens et l'intégrité territoriale du Mali?
Oui, madame, la réponse à votre question, c'est toujours la question. Si le Mali avait les moyens de sécuriser son territoire, ses forces étrangères n'allaient pas être là. C'est parce que notre armée à elle seule ne peut pas que dans le cadre de la coopération internationale, les autres sont venus nous prêter main forte. Donc moi, je parle que...
Mais là aussi, ça ne donne pas grand-chose, puisque les attaques, on venait de mentionner encore la mort de trois soldats maliens.
Oui, ce n'est pas les soldats maliens qui meurent, les soldats de MINUSMA, Barkhane, tout le monde meurt au Mali. Malheureusement, la comptabilité macabre continue. Donc aujourd'hui, moi je pense que poser le débat le départ de la France ou de n'importe quelle autre force étrangère, moi je pense que c'est un débat anachronique et contre-productif, parce que je ne vois pas à quoi ça arrive.
Le président Ibeka, en son temps, disait que ceux qui demandent le départ des forces Barkhane notamment étaient des ennemis du Mali et des FAMA.
Bon, lui, c'était son analyse de l'époque, mais moi je trouve qu'aujourd'hui quand même, vraiment, c'est un débat contre-productif. Moi je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de l'aide de ses amis. Aujourd'hui, au lieu de demander le départ de la France, si les gens pensent qu'il y a des zones d'ombre dans la coopération militaire, ben il faut qu'on le dise clairement. Bon, nous voulons que tel ou tel aspect de notre coopération soit revu. On peut comprendre ça. Ça, ça vaut la peine.
Ceux qui demandent le départ des forces étrangères affirment que, ça c'est la question, c'est pour M. le ministre Koulibaly, affirment que le problème, c'est ces forces, notamment Barkhane, volent sur le territoire malien sans consulter les forces armées maliennes. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez assisté quand vous étiez en fonction? Monsieur le ministre Tiemann, Koulibaly ?
Oui, oui, vous m'entendez ?
Oui, que les forces françaises ne survolent le territoire malien sans demander de permission et font ce qu'elles veulent. C'est l'un des griefs de ces personnes qui demandent le départ des forces françaises.
Madame, chaque acteur public a ses objectifs propres. L'objectif des FAMA et des partenaires militaires du Mali consiste à combattre le terrorisme. Et vous savez, c'est parce que cette menace est globale. Et c'est pour ça qu'un besoin de communauté de défense a été perçu et des approches de sécurité collective ont été mises en œuvre. La menace, elle est globale, elle s'exprime un peu partout dans le monde. Et le Mali n'a pas donné naissance au terrorisme, il s'est invité chez nous. C'est vrai parce que nous avons présenté un certain nombre de faiblesses. Ça, c'est ma première observation. La deuxième, d'ailleurs, l'invité qui vient de s'exprimer vraiment replace très très bien les choses dans leur contexte. Tout le monde meurt au Mali. Il ne s'agit pas simplement des militaires maliens et nous devons en cela respecter le sacrifice consenti.
Mais l'insécurité à laquelle les populations font face aujourd'hui, à qui incombe cet échec d'assurer la sécurité des Maliens ? Est-ce que ce sont les forces étrangères ? Ce sont les FAMA ?
Non, c'est une guerre qui est menée. Ce sont des forces nocives qui sont combattues et par l'armée malienne. Et parce qu'elle ne peut pas toute seule, cela a été dit, elle a besoin de l'aide de ses partenaires. C'est ce qui justifie la présence de Barkhane et celle de la mission des Nations Unies dans le cadre des accords qui ont été passés entre le Mali et les Nations Unies, dont le Mali est État membre.
Merci. Docteur Tunkara, comment réformer ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre les FAMA plus à même de défendre le territoire malien et les populations ? Parce que ces forces dont on parle, Barkhane comme MINUSMA, ne sont pas appelées à rester indéfiniment sur le territoire français. La France parle d'ailleurs de réduction des effectifs de Barkhane.
Alors, clairement, je pense que cela passe nécessairement par un certain nombre de points, parmi lesquels il faut clairement évoquer la nécessité aujourd'hui d'évoluer sous un commandement commun. Si toutefois les forces partenaires voudraient assister à un départ, si vous voulez, dans les années à venir, à court terme, il est urgent aujourd'hui que la force Barkhane française, que la MINUSMA et les forces défense de la République du Mali opère sous un même commandement. Et notre aspect important aujourd'hui qu'il faut rapidement le revoir, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, M. Koulibaly l'a évoqué, il est extrêmement important qu'on associe effectivement et réellement les armées partenaires, en l'occurrence l'armée du Mali, effectivement, aux différentes opérations qui sont quand même conduites par ces forces partenaires. Lesquelles forces partenaires sont quand même taxées d'évoluer en solo, en l'occurrence la force Barkhane française.
Merci.
Quand même, si vous regardez par exemple rapidement, les différents fonds qui sont alloués pour renforcer les armées du Sahel sont quand même des fonds qui sont non seulement détenus par la France, mais qui sont tirés sans pour autant associer les pays bénéficiaires, notamment les pays du Sahel.
Et ça, c'est un problème.
c'est un prononcé. Aujourd'hui, il est quand même impérieux lors du prochain sommet à N'Djamena que les chefs d'État du G5 aient leur courage à main de dire devant le président Macron l'apport de la force balkanique est important.
Merci.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais il est quand même aujourd'hui nécessaire parce que les chefs d'État ne connaissent même pas le montant exact alloué au G5.
C'est la France qui gère les fonds.
De ce montant.
Merci beaucoup.
Ouais, donc comment allez-vous arriver à des armées qui soient aussi efficaces et pertinentes puisque les différents fonds qui sont censés épauler, soutenir ces armées sont gérés à l'euro.
Merci. Vraiment, en 20 secondes, Ibrahim Koulibaly, quel est l'état des relations entre les FAMA aujourd'hui et les populations maliennes?
Bon, c'est une relation, disons, on ne peut pas dire que c'est une relation d'amour, hein, parce qu'en quelques endroits, les gens ont besoin d'eux. En d'autres part aussi, les gens se méfient d'eux parce que les gens disent quand un camp militaire vient, ils s'attaquent aux femmes des villageois et autres choses. Au lieu que les villageois les viennent en aide en termes d'information, ils deviennent des adversaires. Donc il y a trop de problèmes à corriger entre les populations
Merci.
Et l'armée.
Et voilà. Il y a beaucoup de méfiance. Merci à vous, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci à Dr Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécurité et stratégique au Sahel. Et à l'ancien ministre malien des Affaires étrangères et de la Défense, Tiemane Hubert Koulibaly. Nous souhaitons dire que les FAMA n'ont pas souhaité participer à ce débat sur Africa Radio. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.